Magazine et suivre est une rediffusion.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Igor Strauss.
Bonjour. Chaque année, les pays industrialisés produisent entre 20 et 50 millions de tonnes de déchets électroniques. Pourtant, la plupart de ces déchets, d'une grande valeur une fois recyclés, finissent généralement dans des décharges en Afrique ou en Asie. Alors, quelles sont les conséquences pour les populations les plus pauvres qui recyclent ces déchets dans des conditions dramatiques? C'est ce que nous allons voir dans une poignée de secondes avec un reportage aux Philippines. Et puis, dans la seconde partie de cette émission, nous parlerons du trafic de ces déchets grâce au nouveau documentaire de la journaliste Cosima Tanoritzer, La tragédie électronique, qui sera diffusée mardi prochain sur la chaîne franco-allemande Arte. Ces dernières années, les déchets électroniques ont véritablement envahi les Philippines. Certes, le marché local d'appareils électroniques a explosé, mais le pays reçoit également les déchets des pays voisins comme la Corée ou le Japon, et ceux de pays occidentaux qui transitent par Hong Kong. Du coup, le nombre de recycleurs est en constante augmentation dans ce pays émergent d'Asie où 45% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Pour comprendre leurs conditions de vie, nous sommes allés à leur rencontre dans le quartier de Kapulong, à Manille. Ils travaillent là, dans la fumée et le bruit, entassés entre un bidonville et une route très fréquentée. Visite des lieux avec Nerds, un travailleur social philippin.
Ici, on est dans le quartier de Kapulong, à Manille. Et la plupart des gens qui vivent ici sont des recycleurs. Ils viennent de différents endroits des Philippines et ils finissent là, dans la rue, à démonter des déchets électroniques.
Dismantling of e-waste materials in this street. This is a family business, really.
C'est vraiment un travail familial. Bon, là, ils ne sont pas très nombreux, mais si vous venez entre 14h et 17h, vous verrez des recycleurs partout le long de la route, des hommes avec leurs femmes et leurs enfants en train de démonter des appareils. C'est vraiment un travail familial et ils s'entraident.
It's a sort of family business. They help each other.
Et est-ce que vous avez une estimation approximative du nombre de recycleurs ici à Manila?
I don't know the number of recyclers in the whole Manila.
Je ne sais pas combien il y a de recycleurs dans Manila, mais en ce qui concerne ce quartier, on peut dire qu'il y en a plus ou moins une centaine.
More or less 100. Yeah, just in this area. There's also one place in Manila where there are recyclers.
Et il y a un autre endroit de Manille, à Makati, où il y a beaucoup de recycleurs. Là-bas, ils sont entre 150 et 200.
Recyclers are staying in Makati area.
Et quels sont les matériaux qu'ils recherchent et qu'ils recyclent?
Television, refrigerator, air conditioner, electric fan.
Les télévisions, les réfrigérateurs, les appareils pour l'air conditionné, les petits appareils électriques, tout ce qui n'est plus en état de marche. Ils l'achètent, puis le démontent, ils récupèrent ce qui a de la valeur et ensuite ils le revendent au ferrailleur. Mais viens, tu vas voir toi-même ce qu'ils récupèrent.
Ah ben là, je vois justement, il y a un petit enfant.
This one is also a member of the recyclers.
Lui aussi, c'est un des recycleurs. Il s'appelle Joseph.
Joseph,
yeah.
C'est quoi que tu as dans la main alors?
Ano daw yung nasa ano mo, nasa kamay mo?
Anso.
C'est means bronze, copper.
C'est du cuivre.
Il a quel âge lui?
15 years old.
15 ans. Ah mais il paraît beaucoup plus petit. Joseph, toi, tu as 15 ans, mais depuis combien de temps tu travailles pour récupérer les matériaux comme ça?
10 years old.
He started at 10 years old.
Il a commencé à l'âge de 10 ans, donc ça fait 15 ans.
Been working like this.
Et pourquoi tu as commencé à travailler comme recycleur?
Il est soutien de famille, c'est le seul à rapporter de l'argent, c'est pour ça qu'il fait ça et qu'il ne va pas à l'école.
Et est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta vie ici, de ta vie de recycleur? Comment ça se passe ta vie?
Il achète des déchets, il les démonte, c'est tous les jours la même chose, acheter, démonter.
Et là, il y a un cercueil. Donc, ils ont dressé une petite tente avec quelques bougies. Puis, on voit, en fait, le cercueil est ouvert pour qu'on voit juste la tête de la personne décédée. C'était qui cette personne ?
C'était un des recycleurs. Il s'est fait écraser par un camion pendant qu'il travaillait. Il est mort, là.
He died on the spot.
Il avait quel âge ?
36 years old.
36 ans.
Ça, c'est ça, parce qu'il travaille ici. On est au bord de la route. Il y a une circulation de folie. Il y a les voitures qui rasent les recycleurs qui sont là, qui s'étendent sur la route, parce que du coup, ils ramènent des grosses cargaisons. C'est dangereux aussi pour les pour des questions de... De circulation.
It's really dangerous that the people are working.
Oui, c'est très dangereux pour les personnes qui travaillent ici au bord de cette route très fréquentée, mais c'est le seul endroit du quartier où ils peuvent entasser les déchets avant de les démonter. Il n'y a aucun autre endroit où ils pourraient s'installer. Donc non seulement ils risquent leur vie en faisant le travail qu'ils font, mais en plus ils risquent de se faire renverser par une voiture à tout moment.
Qu'est-ce que ça vous fait personnellement quand vous venez ici, que vous voyez les conditions de vie de ces gens assez difficiles? Qu'est-ce que vous éprouvez?
Ça me fait de la peine, évidemment, et j'ai vraiment de la pitié pour ces enfants qui vivent dans ces conditions. Vous savez, j'ai beaucoup voyagé aux Philippines, et c'est la même chose pour tous ceux qui font des travaux manuels, et ça fait mal au cœur. Moi, j'essaie de les encourager, de leur faire comprendre qu'ils font partie de notre société, qu'ils sont aussi importants parce que ce sont des êtres humains. Parce que même si j'éprouve de la sympathie et de la pitié pour eux, je ne dois surtout pas leur dire ou leur montrer, parce que ce serait dégradant pour eux de savoir qu'on a pitié d'eux. Mais ces gens sont totalement délaissés par le gouvernement. Ils n'ont pas accès aux services auxquels ils ont droit.
Et vous en voulez au gouvernement pour ça ?
Personally, sort of.
Oui.
But this is the place where I live.
Et même si c'est mon pays, l'endroit où je vis, ça ne devrait pas arriver.
Sammy a 5 enfants, il est recycleur depuis l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, il en a 42, mais il a un physique et une voix d'enfant. Selon les médecins, les déchets toxiques en seraient la cause. Ah, Sammy. How are you?
Oh, fine. Nandito sa kabila.
It's the other side. You want to go to his house?
Yes.
Yes, come.
Alors, on va aller dans la maison de Sammy. Alors, on pénètre à l'intérieur du bidonville. C'est toute petite ruelle, toute étroite.
This is my house.
Ah, on rentre? We go in?
Yeah.
Donc, c'est une toute petite pièce. Ça fait quoi? 5 mètres carrés. Donc il y a des bibelots partout, il y a l'image de la Vierge, l'image du Christ. Vous vivez ici tout seul ou vous vivez avec du monde, votre famille ?
Je vis avec ma femme et mes 5 enfants.
C'est pas trop petit, vous êtes pas trop serré ?
Ok.
Non, c'est bien, on est bien là.
Et alors là, je vois, là c'est la petite cuisine ici. Et pour l'eau, vous faites comment ? Où est-ce que vous avez l'eau ?
On achète à l'extérieur.
Alors Sammy, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre vie de recycleur ? Me dire depuis combien de temps vous travaillez, vos conditions de vie ?
Ça va, je me sens bien. Avec mon travail de recycleur, j'ai un salaire et donc je peux aider ma famille, les nourrir. Je peux même payer l'école à 4 de mes enfants.
Et votre femme, elle travaille aussi ?
Walang trabaho yung asawa ko.
Ah non, elle a pas de travail.
Et ça fait combien de temps que vous habitez ici dans cette petite maison?
Dito. Mula pa nang
ça fait longtemps que j'habite ici. Dito na kami. Je suis arrivé là, j'avais 8 ans, aujourd'hui j'en ai 42. Ici c'est vraiment chez moi.
42.
Quels sont les principaux problèmes de la vie que vous avez vous ici?
Pagkain, gamot.
Le problème, c'est que quand je ne récupère pas de déchets, c'est difficile de manger. Et quand la famille tombe malade, alors là, j'ai souvent du mal à acheter les médicaments.
Et vous parlez des problèmes de santé. C'est quoi les principaux problèmes de santé dans la famille et pour vous ?
Pour les enfants, c'est la fièvre, les douleurs à l'estomac, et moi, c'est plus les douleurs musculaires, des choses comme
ça.
Ils sont des milliers comme Sammy à travailler et vivre dans des endroits insalubres. plomb, mercure, cadmium, polluants organiques persistants venant des câbles que les recycleurs brûlent. Voilà les métaux lourds que l'on retrouve dans la nature et dans l'organisme des recycleurs. Mais quels sont les effets sur la santé? Astrid Eckermann est coordinatrice du programme de Médecins du Monde sur les déchets électroniques.
Alors les dangers sont multiples, il peut y avoir des troubles respiratoires, des problèmes neurologiques, des problèmes de développement, notamment pour les enfants, pour les fœtus également. Ça peut amener des cancers, donc les troubles sont divers. La grande difficulté, c'est qu'il n'y a pas de symptômes vraiment spécifiques aux intoxications et que les symptômes peuvent être attribués à d'autres pathologies qu'une intoxication aux métaux lourds, ce qui rend le diagnostic assez complexe. Donc nous, on se positionne vraiment sur... comment les accompagner dans la réduction des risques auxquels ils s'exposent quand ils recyclent. Ensuite, on a effectivement, on leur donne du matériel de prévention pour leur permettre de se protéger. Et puis, on organise quelques activités qui sont assez spécifiques. On en a une qui s'appelle les Clean-up Drive ou Linis Pankalusugan, qui signifie nettoyer pour la santé. Et où là, l'objectif est que les recycleurs eux-mêmes nettoient dans leur quartier les déchets liés au recyclage. Et on s'est rendu compte que cette activité-là allait au-delà de nettoyer les déchets liés au recyclage pour nettoyer la totalité du quartier, déboucher les canaux, faire en sorte qu'il n'y ait plus d'inondation à chaque pluie. Donc c'est un résultat assez positif pour l'environnement.
C'est pas du vent. Sur RFI.
Médecins du Monde développe ce programme depuis un an et demi pour réduire la mortalité, mais les contraintes sont nombreuses. Comme le travail des enfants est officiellement interdit aux Philippines, ils ne peuvent pas leur donner de matériel de protection alors qu'ils sont en première ligne. Et ils ne distribuent plus de masques contre la poussière de plomb en raison des risques d'épidémie de tuberculose. Malgré cela, ils mènent des campagnes d'information qui commencent à porter leurs fruits. Direction le quartier de Longos, René, 45 ans, s'affaire au démontage d'un ventilateur.
Avant, j'étais ouvrier chez un constructeur automobile japonais. Mais les commandes de voitures ont tellement diminué qu'ils ont dû licencier. Je me suis retrouvé au chômage et je suis devenu recycleur. Ça fait 5 ans maintenant.
Et qu'est-ce que ça a apporté, la venue de Médecins du Monde ici dans le quartier?
C'est bien, ça a amélioré la vie du quartier. Au niveau de la santé, déjà, ils nous ont expliqué pourquoi ces déchets étaient dangereux pour notre santé. Nous, on ne savait pas tout ça, mais ça nous a permis d'être au courant. Du coup, on fait plus attention parce qu'on est informé. Et puis, ça nous a permis d'être mieux organisés, d'être plus solidaires. On s'est unis pour avoir accès à différents services en dehors du quartier.
Et justement, en parlant de santé, est-ce qu'il y avait beaucoup de problèmes de santé avant en raison de ce travail?
Vous savez, comme je vous l'ai dit, nous, on ne connaissait pas les risques de ces déchets pour la santé. Et puis, on n'a pas l'habitude d'aller chez le médecin. Ici, personne ne va à l'hôpital. C'est comme ça. Mais certains souffrent de maux de tête, d'autres ont des douleurs dans tout le corps, des choses comme ça. Mais on n'en connaît pas les raisons, on ne sait pas si c'est à cause des déchets électroniques. Mais j'ai mon ami Franck, là, qui a des gros problèmes aux mains et aux pieds. Et lui, on pense que c'est à cause des déchets, parce qu'avant, il n'avait pas ces problèmes. Ça a commencé quand il est devenu recycleur. Tenez, regardez.
Voilà, on voit, donc il a les mains, vous avez les mains attaquées. Ah ouais, on voit que ça avait la peau qui est partie. C'est tous les pieds aussi, quoi. Toute la peau qui est partie, c'est assez impressionnant, ouais. À jambes aussi, ouais. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit à l'hôpital? C'est dû à quoi, selon les médecins de l'hôpital?
Moi, je suis déjà allé à l'hôpital une dizaine de fois parce que le médecin veut voir comment ça évolue. Il m'a fait des prises de sang, mais je n'ai pas encore les résultats et il faut que j'y retourne. Mais je ne vais pas y aller. J'en ai marre. Ça fait au moins 10 fois que j'y vais et chaque fois on me dit de revenir. En plus, l'hôpital est loin de chez moi. Donc maintenant, c'est terminé.
Et Oui, mais enfin, si vous n'y retournez pas, vous ne pourrez pas savoir ce que vous avez vraiment.
Oui, je sais, mais de toute façon, je n'ai plus d'argent pour payer le transport. J'y suis déjà allé 10 fois. Vous savez ce que ça représente ? Rien qu'en frais de transport ? Et ensuite, il y a les examens. La prise de sang m'a coûté 6 dollars. Le transport, c'est 2 dollars. Je n'ai plus d'argent pour y aller.
Et ça fait longtemps que vous travaillez comme recycleur ?
Ça fait 10 ans.
Et vous récupériez quoi comme matériaux ?
Je récupérais tout ce qui se trouve dans les réfrigérateurs, les télés, les climatiseurs. C'est la raison pour laquelle j'ai les mains comme ça.
Et vous arrivez à travailler encore aujourd'hui ou est-ce que c'est difficile maintenant ?
Non, je ne peux plus travailler. Mes mains et mes pieds me font trop souffrir.
Comme le système de santé philippin a été très largement privatisé, il est très difficile pour les plus pauvres d'avoir accès à des soins de qualité. Quant à la gestion des déchets électroniques, le pays ne compte que 2 usines de retraitement et la collecte de ces déchets n'est même pas organisée. Mais alors, que fait le gouvernement ? Comment enrayer ce phénomène ? Angelina Pago est responsable de la communication de l'ONG philippine EcoWaste Coalition.
Here in the Philippines, we're pushing for more knowledge-based actions.
Ici, aux Philippines, on insiste sur l'émission d'informations pour que les gens sachent ce que sont les déchets électroniques, ce qu'il faut en faire et pourquoi ils sont dangereux.
For example, here in the Philippines, we love giving cheap electronic gadgets.
Par exemple, ici aux Philippines, on adore offrir des petits gadgets électroniques. Du coup, on est envahi par ces gadgets de très mauvaise qualité qui se cassent après 2-3 mois. Et les gens ne savent pas quoi en faire. Alors ils les jettent. Donc on explique aux gens ce qu'il faut faire de ces gadgets une fois cassés. On insiste aussi auprès d'eux pour qu'ils soient plus vigilants et qu'ils achètent dans les magasins qui reprennent les marchandises qui ne fonctionnent plus. Et on demande aux entreprises d'avoir une démarche plus responsable et de proposer ce service de reprise aux clients. On insiste aussi pour qu'il y ait une législation qui oblige les entreprises qui fabriquent, qui distribuent ou qui vendent de l'électronique à prouver que leurs articles ne contiennent pas de produits toxiques comme le mercure, le cadmium ou le plomb.
Toxic chemicals such as mercury, cadmium, chromium, lead and PFRs.
Est-ce que vous pensez que le gouvernement philippin est concerné par ce problème ? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous ?
One of the solutions that could be provided by the Philippine government is the ratification of the Basel Ban Amendment, which will effectively cease the transporting of e-waste from.
Une des solutions que le gouvernement philippin serait facilement en mesure de proposer, c'est de ratifier l'amendement de la Convention de Bâle qui mettrait enfin un terme à l'exportation des déchets toxiques des pays industrialisés vers des pays comme les Philippines, le Vietnam ou tout autre pays en voie de développement. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être fait par le gouvernement philippin. Et puis, le gouvernement devrait contraindre les entreprises à être responsables des déchets qu'elles produisent parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, nous pensons qu'il faut étendre la responsabilité des entreprises par rapport aux produits qu'elles fabriquent. Je vous donne un exemple. Ici, aux Philippines, nous avons la filiale d'un fabricant de téléphones portables qui a mis des poubelles dans tous les lieux publics, les supermarchés, les gares. Comme ça, les gens peuvent se débarrasser de leurs vieux portables et de leurs chargeurs. Et de là, ces vieux téléphones sont envoyés dans une usine à Singapour où ils sont recyclés. Et ça, on pourrait tout à fait le faire avec d'autres produits. Mais comme il n'y a aucune législation pour obliger ces entreprises à le faire. Nous, on peut uniquement faire des campagnes en ce sens, mais on n'a aucun pouvoir sur ces entreprises. On ne peut rien faire d'autre.
Restez avec nous, on se retrouve dans un peu plus de 3 minutes après le flash. Nous parlerons de la tragédie électronique, le nouveau documentaire de la journaliste Cosima Danoritzer sur le trafic de ces déchets. C'est pas du vent ? À suivre.